Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure de la libération de Paris, dont on célèbre les 80 ans dans quelques semaines, je vous propose de plonger dans l'une des périodes de l'histoire française les plus terribles et en même temps passionnantes. L'occupation de la France entre 1940 et 1944, une époque sombre que notre invité aujourd'hui nous invite à découvrir par le prisme d'un lieu particulier, l'hôtel du Ritz, un palace parisien situé place Vendôme, au cœur de la capitale, un bâtiment où s'est cristallisé le pire et le meilleur de l'humanité et où se sont côtoyés tous les acteurs et spectateurs de cette guerre, allemands, français, résistants, collabos, riches, pauvres, juifs, catholique. Et témoin de tout ça, un homme, derrière son comptoir, Franck Meyer, désormais en lumière dans ce roman paru chez Albin Michel sous le titre « Le barman du Ritz ». Avec cerise sur le gâteau, ou plus exactement cerise sur le bijou, qui est le nom d'une boisson, l'apparition pour la première fois en français du guide de mixologie devenu introuvable, « L'art du cocktail » écrit en 1936 par Franck Meyer. Et c'est aux mêmes éditions. Bonjour Philippe Collin.
Bonjour à vous et merci pour cet accueil.
Vous êtes journaliste, scénariste, producteur radio et auteur de nombreux podcasts consacrés aux grandes figures historiques, de Napoléon à Léon Blum en passant par Philippe Pétain ou encore Simone de Beauvoir. Et là, vous revenez à cette époque que vous connaissez bien, cette Deuxième Guerre mondiale, mais si à travers une figure de l'ombre, inconnue du grand public. Quand avez-vous donc découvert l'existence de Franck Meyer et pourquoi vous a-t-il semblé incarner toute la complexité de son temps ?
Alors c'est une réponse un peu longue, mais je vais essayer d'être concis. Ma rencontre avec Franck Meyer, elle remonte dans le temps puisque je connais l'existence de Franck Meyer depuis plus de 20 ans. Pour une raison très simple, c'est que je suis de province, breton d'origine, et je suis monté à Paris, comme on dit, à l'âge de 23 ans. Mais jeune homme, j'avais lu « Paris est une fête » d'Hemingway, et j'étais assez fasciné par le Ritz. Donc en arrivant à Paris, je me suis dit « Tiens, j'irais bien faire un tour au Ritz », mais je n'ai pas osé y entrer. Pour des raisons bêtement sociales, comme un interdit, vous voyez, comme si je ne m'étais pas autorisé à entrer dans le Ritz. Et puis, il se trouve qu'en 2002, je bossais déjà à France Inter, j'apprends que Yoko Ono est à Paris, la femme de John Lennon, et artiste avant tout japonaise, et elle donne des interviews. Donc, je fais une demande d'interview, on me dit pas de problème, mais sauf que c'est une star mondiale, donc elle ne vient pas à France Inter, à Radio France, pour venir à l'hôtel, là où elle loge, pour faire l'interview. Et elle logeait au Ritz. Donc soudain, avec une sorte de légitimité en bandoulière, je rentre dans le Ritz, autorisé, et j'arrive 2 heures avant l'interview pour profiter un peu du lieu, etc. On fait l'interview, et puis après l'interview, je vais au bar du Ritz. Je vais au bar Hemingway, qui s'appelle le bar Hemingway aujourd'hui, et je passe un peu de temps, et je m'aperçois qu'en fait, je vais pouvoir y revenir. Après tout, c'est pas si dur d'entrer au Ritz. Donc je vais revenir 2 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois. Et au fil de mes visites, je sympathise avec Colin Field, qui est donc le grand barman du Ritz entre 1994 et 2024. Il est parti en janvier dernier, Colin Field. Et c'est lui qui me parle de Franck Meyer. Comme une sorte de totem, comme une sorte de roi des barmen de l'entre-deux-guerres, une sorte de figure très importante dans le monde du luxe, au-delà même du simple barman. Et je suis assez fasciné par son récit. Parce que d'une part, il a une vie assez extraordinaire, une vie inouïe, mais aussi parce que sans doute que son chemin social ressemble au mien. C'est-à-dire que vous savez, quand on chemine socialement, quand on part d'un point A pour un point B, on est assez sensible à ceux qui empruntent ce chemin. Et je trouvais que le chemin de Franck me parlait. Et donc pendant 10 ans, j'ai documenté sa vie. Comme une sorte de hobby, un peu, pour commencer. Donc, à la fois des correspondances, des journaux intimes, des notes, un dossier militaire, une revue de presse. Et donc, j'ai accumulé une grande matière sur lui. Et il y a à peu près maintenant 10 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cette affaire? Et j'ai eu tout doucement le sentiment d'aller vers la littérature pour faire un roman de la vie de cet homme. Et c'est vrai que ça fait 8 ans que j'ai travaillé sur ce roman. Donc, c'est beaucoup de temps de ma vie, en fait. Ça fait très longtemps que je vis avec Franck Meyer, en vérité.
Mais pour faire ce grand roman de l'occupation. Donc, bien sûr que vous avez eu raison de prendre votre temps. Alors, parlons-en de Frank Meyer, cet homme né en Autriche à la fin du 19e siècle, qui a fui sa famille, sans doute pour des raisons sociales, justement, pour venir en France, qui s'est engagé dans la Première Guerre mondiale. Et à ce titre, il a obtenu la nationalité française. Et ensuite, il est parti à New York, où il a appris son métier de barman et toutes les ficelles des endroits luxueux et de la clientèle. Mais alors pourquoi revient-il à Paris, selon vous, Philippe Collin ? Et pourquoi le Ritz ? Est-ce que c'est en effet le palace le plus prestigieux ? Ou précisément, c'est parce que peut-être ici, il y a un bar à créer qui n'existe pas vraiment ?
Alors en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le Ritz a ouvert en 1898 et il se trouve qu'au début du XXe siècle, se lance une mode qui sont les bars américains. Vous savez, aux États-Unis, c'est très important le bar. Il suffit de penser au saloon, par exemple, de la conquête de l'Ouest. C'est un lieu de sociabilité extrêmement important dans la culture américaine. Donc le bar, c'est vraiment un lieu américain. Et il y a, à la fin du 19e, une grande mode des bars à cocktails, des bars américains, là où Frank a appris son métier, comme vous l'avez dit. Et il se trouve que Frank a ouvert un premier bar à Paris qui s'appelle le Brunswick, rue des Capucines. Et il s'est fait une réputation d'un gars qui sait manier à la fois l'art du cocktail, mais aussi la psychologie, une sorte d'espièglerie, un côté un peu smart, etc. Et il se trouve que le Ritz décide à partir de 1921, à son tour, en tant que chevron du luxe français, d'ouvrir un bar américain. Et donc ils vont solliciter Frank Meyer, qui a à l'époque 35 ans, 37 ans, donc à la fois un jeune homme, mais pas tant que ça, il a une expérience et il a fait ses preuves. Et donc on lui propose une concession, d'ouvrir un bar. Mais là où Franck est intéressant, c'est que ce n'est pas un débit de boisson qu'il va ouvrir. C'est un lieu extraordinaire de raffinement, cosmopolite, un lieu de fête, un lieu d'esthète. C'est un lieu de culture et de haute civilisation. Et pendant deux décennies, années 20, années 30, Franck va mettre en place un lieu unique au monde où on y croise des écrivains, des diplomates, des poètes, tout un monde culturel français, bien sûr, mais pas que, international. On a là des grands écrivains américains comme Hemingway ou Fitzgerald, mais également Sacha Guitry, Jean Cocteau, Gabriel Chanel. Tout un monde qui dit ce que voulait créer Frank Meyer. Un monde à part, en vérité.
Sauf que sa vie, comme celle de tous les Français, va basculer le 14 juin 1940, quand les Allemands arrivent dans Paris et instaurent l'occupation qui durera 4 ans. Le Ritz reste ouvert et Frank Meyer, qui a 56 ans, reste en poste et donc sert tous les officiers allemands qui défilent à son bar. Mais pourquoi Philippe Collin, puisqu'il est juif, est resté, le met en danger absolu?
Alors je pense qu'au départ, il y a plusieurs ressorts chez Frank Meyer. C'est que, bon, vous savez, quand les Allemands entrent dans Paris, tout le monde est frappé d'effroi. Mais très vite, l'armée française s'effondre, la France s'effondre, et arrive Philippe Pétain qui va proposer l'armistice au Troisième Reich d'Adolf Hitler. Et donc en fait, la guerre est finie. On a du mal à s'imaginer ça aujourd'hui, mais dès le 22 juin 1940, la guerre est finie. Alors avec quel prix ? Il y a une France occupée, il y a cinq zones, la France est découpée, bon, il n'y a plus de République, mais la France repart tout doucement. Et Frank Meyer se dit, bon, comme beaucoup de Français et de Françaises, la vie va reprendre. J'ai une nouvelle clientèle, je vais essayer de gérer la situation. Donc au départ, il y a une sorte de compromis avec lui-même. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Beaucoup de gens ont gardé leur métier quand on n'était pas prisonnier de guerre, par exemple. Et au début, Franck se dit, je vais rester et je vais voir comment ça se passe. Mais au fil des mois qui passent, cette situation devient de plus en plus compliquée. Mais je crois qu'au fond, Franck est extrêmement attaché aux valeurs qui sont les siennes et qui ont été celles de l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire que Franck sait très bien que le monde qu'il a créé, qu'on évoquait à l'instant, c'est le monde qui lui a permis de devenir ce qu'il est devenu, qui lui a permis de faire son chemin social. Et donc, il tient à ces valeurs-là, comme le cosmopolitisme, comme la civilisation, comme l'esthétisme. Et je crois que garder son bar ouvert, malgré tout, malgré les Allemands, malgré la collaboration, malgré la France occupée, c'est tenir debout avec ses valeurs ancrées au fond de lui. Et je crois que Franck, il y a un combat en lui, une sorte de combat intérieur, où à la fois il aimerait avoir un courage un peu plus grand, malgré tout, d'être un résistant, peut-être comme Blanche Ozello, qui est la patronne, la femme du directeur, pardon.
On va en parler.
Voilà, et en même temps, il se dit, si je reste là, à tenir mon bar, je fais preuve d'une forme de dignité humaine. Voilà. Et donc, il se bat avec lui-même tout le temps, en permanence.
Oui, mais néanmoins, Frank Meyer est donc juif. Alors, il ne le dit à personne, évidemment, et c'est vrai que son atout de barman cette espèce de d'art qu'il a de recevoir les plus grands officiers, les plus grands intellectuels. Le fait aussi que l'allemand soit sa langue maternelle, je pense que ça joue beaucoup dans sa décision, parce que ça lui permet de comprendre tout ce qui se dit, tout ce que dit l'ennemi en tout cas, et peut-être d'anticiper son arrestation. Mais néanmoins, c'est un barman juif et qui va réussir à cacher cette identité pendant 4 ans. Alors, vous avez commencé de nous le dire tout à l'heure, Philippe Collin, vous avez documenté pendant des années ce roman, sachant qu'effectivement, la majorité des personnes dont vous nous parlez ont réellement existé. Mais néanmoins, Frank Meyer n'a pas laissé de journal intime, ni de témoignage direct. Donc, d'une certaine façon, quelle est la part de réalité et quelle est la part de l'imagination ?
En effet, il n'y a pas de témoignage direct de Frank. La seule chose qu'on a en direct, c'est des interviews dans la presse écrite. Donc évidemment, une interview, elle est réécrite, mais c'est une parole malgré tout prononcée. Donc il y a quand même un petit accès à la psychologie de Frank quand on relit ses interviews. Parce que vous savez, on l'a oublié, mais à l'époque, notamment dans les années 30, c'est une grande vedette mondiale. Prenons un exemple très concret, 1933, le mois d'août, Frank Meyer part en vacances à New York avec sa femme et son fils. À peine a-t-il posé le pied à New York que le New York Herald Tribune lui consacre une demi-page en disant « Frank Meyer est en ville ». Et donc il y a une grande interview, il raconte sa jeunesse à New York, etc. Vous voyez, donc c'est une personne qui comptait dans le monde des mondanités. Donc on a accès à quand même à des archives où il s'exprime. Ensuite, en effet, eh bien, il faut aller glaner ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire des dossiers militaires, puisqu'il s'est engagé volontaire dans l'armée française, bien qu'autrichien. Donc là, on a tout un dossier qui décrit qui est Frank Meyer. Les revues de presse, je l'évoquais, mais aussi des correspondances, hein, une sorte de littérature épistolaire, mais aussi des journaux intimes, parce que, par exemple, des écrivains passent au Ritz et puis écrivent ce qu'ils ont vécu. Donc vous pouvez tomber sur un journal d'un écrivain roumain qui est venu à Paris en 1934, il est venu au Ritz, et puis il vous décrit ce qu'il a vu, et puis son échange avec Frank Meyer, etc. Donc, en fait, c'est un travail de fourmi où vous cherchez toutes les pièces du puzzle qui peuvent raconter qui est Frank Meyer. Ça, c'est la base, c'est le squelette. Et donc, il y a une part de réel, tout à fait réel, documenté, et puis évidemment, il y a une part qui est ma propre projection. C'est-à-dire que je me suis peut-être pris pour Frank Meyer dans une situation qui est celle de la France occupée. Donc, qu'est-ce que moi, j'aurais fait à sa place ? Donc, je me suis souvent mis à réfléchir à telle situation, comment tu aurais réagi ? Qu'est-ce que tu aurais fait dans ce moment-là, etc. Toujours en ayant en tête le substrat qui était Frank Meyer dans la documentation que j'avais. Donc, c'était un jeu intéressant entre j'ai de la matière et qu'est-ce que moi, j'aurais fait à sa place. Donc, c'est une sorte d'alliage entre du réel, bien réel, et puis une projection fictionnée, oui.
Alors, on va continuer de parler de Frank Meyer et du Ritz et de Paris occupé dans quelques instants, après une petite pause musicale. Alors justement, Philippe Collin, puisque vous êtes Frank Meyer, qu'est-ce qu'il aimait, lui, écouter dans son bar et qu'est-ce que vous aimeriez partager avec nos auditrices et nos auditeurs maintenant sur RFI ?
Eh bien, je crois que Frank Meyer est un garçon qui a appris son métier aux États-Unis et qu'il avait une fascination pour Cole Porter. Et on entendait beaucoup Cole Porter dans les années 30 au bar de Frank Meyer. Donc je pense qu'un titre de Cole Porter, ce serait idéal pour illustrer la vie de Frank Meyer.
Avec grand plaisir.
Thank you.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec une émission aujourd'hui consacrée au barman du Ritz. Titre du roman chez Albin Michel de Philippe Collin, notre invité, grâce à qui nous découvrons la vie quotidienne des Parisiens pendant l'occupation allemande à Paris entre juin 1940 et août 1944, date de la libération de la capitale par les Alliés il y a donc 80 ans. L'histoire vraie de Frank Meyer, qui pendant 1533 nuits est resté derrière le comptoir du bar et où il a été témoin de tous les courages, de toutes les lâchetés, mais aussi des profiteurs, des attentistes. Car jamais dans cette période ne s'est révélée autant la nature humaine, ne s'est posée la question de l'engagement. Mais sur ce point, et c'est ce que nous apprend votre roman, Philippe Collin, juger serait trop facile. Et donc, on en arrive à quelques cas de figure. Par exemple, peut-être Blanche Osuelo, à qui vous dédiez ce livre, l'épouse du directeur du Ritz, et dont vous dites qu'elle a été l'unique reine. Qui était cette femme au destin tragique ?
Alors, c'est une femme qui me fascine. C'est une femme dont je suis tombé amoureux, je pense, en vérité, au lointain. Puisque,
comme Frank Meyer, donc.
Exactement, mais peut-être que c'est parce que je suis tombé amoureux de Blanche que Frank l'est autant. Même si je sais par des témoignages que Frank était fasciné par Blanche Osuelo. Alors Blanche, elle est née Rubinstein, c'est-à-dire qu'elle est juive new-yorkaise, née de parents allemands qui avaient émigré aux États-Unis au début du XXe siècle, fin XIXe. Elle voulait être actrice, donc elle débarque à Paris au tout début des années 20 avec une amie qui s'appelle Pearl White, parce qu'à l'époque, on tourne beaucoup de cinéma à Paris, notamment du cinéma muet, évidemment muet, et donc elle veut devenir actrice. Et elle arrive à Paris au début des années 20 et elle tombe amoureuse de Claude Osuelo, qui est un beau gars du Sud, un niçois, avec une sorte de gros caractère, et qui va devenir le directeur du Ritz à partir des années 30. Donc ils vont se marier, c'est un couple très unis, et qui est donc une femme au fort caractère, elle aussi, bien trempée, grande bravoure, une femme d'une grande liberté.
Qui est en détestation la patronne du Ritz.
Oui, la propriétaire, Marie-Louise Ritz, qui est la veuve de César Ritz, qui a été le créateur du Ritz. Et ces deux femmes-là, d'ailleurs, racontent un duel, une lutte, qui est à la fois, on va dire, pour faire très vite, si on caricature un peu, il y aurait Blanche Osuelo, qui serait la femme du XXe siècle, dans le sens de l'émancipation, d'une forme de progrès, on va dire, social et émancipateur. Et puis, Marie-Louise Ritz, qui serait plutôt une branche de la tradition, du conservatisme, voire parfois de la réaction, elle est un peu réactionnaire. Et donc ces deux femmes-là vont s'affronter beaucoup dans les années 30. Prenons un exemple très concret, mais en 1936, les bars du Ritz vont devenir mixtes. C'est-à-dire que les femmes et les hommes pourront boire ensemble, en public, de l'alcool. Ça nous paraît un peu bizarre aujourd'hui de dire ça, mais à l'époque, c'est une révolution. Les femmes ne boivent pas de l'alcool avec les hommes, si ce n'est dans les bordels. Là, au Ritz, pas du tout. On décide que les femmes ont le droit de boire de l'alcool avec les hommes en public. Et donc Blanche fait partie du petit lobby qui a contraint son mari à autoriser la mixité des bars. Imaginez Marie-Louise Ritz, qui pour elle, donc une femme qui boit de l'alcool en public, est une prostituée. Vous voyez le clash que ça peut créer dans les années 30. Et lorsque les Allemands vont arriver à Paris et prendre possession de la France, de Paris et du Ritz, ce duel va se rejouer. Évidemment, puisque Marie-Louise Ritz se sent appuyée par l'occupation allemande qui, elle, est pour le moins conservatrice.
Sachant que Madame Ritz est suisse et donc elle s'imagine être en terrain neutre.
Oui.
Donc elle va avec l'allemand parce que c'est la clientèle du jour.
Exactement. Il y a une forme de neutralité suisse qui fait que Marie-Louise considère que la vie continue, qu'elle a une nouvelle clientèle, comme vous venez de dire, et donc elle gère son business, en fait, tout simplement. Mais cette Blanche Osuelo va faire preuve d'un courage inouï dès le départ. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec Blanche, c'est qu'immédiatement, ça c'est documenté, ça pour le coup c'est tout à fait réel, elle va trouver ça insupportable, l'occupation allemande, et donc très vite, elle va vouloir faire quelque chose. Et donc elle va entrer en résistance, entre guillemets, dès les premiers mois, dès les premières semaines. Et pendant les 4 ans d'occupation, elle n'aura de cesse... Alors, elle a des angoisses. C'est une personne compliquée, Blanche Osuelo. Elle a des névroses. Elle est morphinomane. Donc, elle est addicte à la morphine. Donc, elle a parfois des comportements qui sont...
Erratiques
et compliqués à gérer. Et bon. Mais elle fait preuve d'un courage inouï. Elle
est arrêtée 3 fois par la Gestapo.
Oui. Et voyez ça, par exemple, on pourrait penser que le romancier en abuse. 3 arrestations. D'ailleurs, mon éditrice m'avait dit, bon, tu sais, Philippe, 3, c'est quand même beaucoup. Et j'avais dit, oui, Anna, Hitler. Mais trois, c'est le réel, c'est-à-dire qu'elle est arrêtée trois fois par la Gestapo, hein, 42, 43, 44, et parfois condamnée à 8 mois de prison. Donc vous voyez, c'est une personne qui est hors norme, qui a un sens de la dignité humaine hors compétition et qui me fascine depuis très longtemps.
Et c'est donc par amour pour elle que Frank Meyer, imaginez-vous, Philippe Collin, le barman du Ritz, va sortir de son rôle de spectateur pour agir à son tour dans l'ombre. Et d'ailleurs, il va se rendre compte à cette occasion que dans son entourage, d'autres aussi, sous couvert d'acceptation, mettent quand même leur force au service des Juifs et de la Résistance. Et on se rend compte, grâce à vous, que le Ritz, c'est vraiment le lieu de toutes les illusions, espèce de théâtre où on ne sait jamais qui joue un rôle ou pas, où tout le monde porte un masque. Et c'est vrai que cette ambiguïté, c'est ce qu'on peut rendre dans un roman et pas dans un livre d'histoire.
Mais vous avez tout compris. C'est-à-dire que, en effet, ce Ritz, vous l'avez très bien décrit, c'est comme un modèle réduit de la France occupée. On a toutes les névroses, toutes les tensions de la France occupée, avec tous les caractères que vous avez évoqués, le collabo, la résistante, la courtisane, le profiteur de guerre, l'attentiste. Tout est réuni là dans un petit espace. Et donc c'est un théâtre d'ombre, de masques, vous l'avez très bien dit, où en effet tout le monde ment. Tout le monde ment à tout le monde en permanence. Alors où est la vérité là-dedans ? Eh ben, quand on s'en empare en termes de littérature, c'est un matériau qui est extraordinaire parce qu'on peut projeter tous les cas de figure. Et chacun peut d'ailleurs changer de rôle. C'est ça qui est intéressant.
Et loin de moi l'idée de vous titiller, Philippe Collin, mais cet engagement de Frank Meyer, est-ce que c'est votre projection ou est-ce que c'est vraiment attesté ?
Alors, comment dire ? J'ai quelques éléments qui me laissent penser qu'il a pu agir de la sorte. Notamment, je sais qu'il a trouvé des papiers, ça c'est authentique, pour protéger une personne juive de l'hôtel et aussi un aviateur anglais qui était hébergé dans les combles du Ritz. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a une action tout à fait documentée. Et puis, l'autre chose qui est intéressante, sans trop divulgâcher ou spoiler le roman, c'est qu'à la fin, il y a un complot au Ritz. Un complot contre Hitler. Donc, je ne vais pas trop le dévoiler, mais aujourd'hui, les historiens ne savent pas si Frank y a participé ou pas, en tant que boîte aux lettres. Alors, on sait qu'il y a participé comme une sorte de messager. Mais on ne sait pas s'il en a conscience ou pas. En tout cas, il le découvre après coup. Et donc, il fait partie d'un rouage. Et donc, on peut imaginer qu'il s'en est douté quand même, parce qu'il les connaît bien, les officiers allemands. Mmh. Donc, vous voyez, il y a des éléments qui nous laissent à penser que, et là où je réponds à votre question en toute sincérité, c'est que, évidemment, je me suis emparé de cette matière pour essayer d'imaginer ce que les uns, les autres, moi en premier lieu, aurions pu faire ou ne pas faire dans telle ou telle situation.
Voilà, c'est aussi un roman à suspense, hein, oui, oui. Le barman du Ritz, parce qu'effectivement, comme on vit au quotidien, alors n'oublions pas que Paris est bombardé, il y a des milliers de civils qui meurent sous les bombes, on assiste aux rafles du Veldiv, aux déportations des Juifs, cette faim qui tenaille la population, avec ce Ritz qui reste ouvert coûte que coûte jusqu'à l'arrivée des Alliés, mais là, ensuite, c'est le temps de l'épuration, il y a aussi la spoliation du mobilier du Ritz, la disparition de la plupart du personnel, et puis Frank Meyer, au milieu de tout ça, qui essaye de rester droit, même s'il y a un ressort qui se casse un peu en lui. Au bout de 4 ans, il est épuisé nerveusement, physiquement, et la fin de sa vie est un peu mystérieuse. J'en dis pas plus. Est-ce qu'il aurait emporté avec lui d'autres secrets, selon vous ? Parce qu'il meurt finalement assez jeune après la guerre.
Oui, et surtout, je vais vous le dire, sa mort demeure mystérieuse, y compris pour moi. C'est-à-dire qu'on sait très peu de choses sur la fin de la vie de Frank Meyer. On sait qu'il est mort en 1947, donc très vite en effet après la fin de la guerre. On ne sait pas du tout dans quelles conditions il est mort. Il y a plusieurs rumeurs. Je sais qu'il a été licencié du Ritz. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, pour tout vous dire, après le roman. Parce que le Ritz m'a fait montrer un document. Donc apparemment, il aurait continué sa double caisse après la guerre. Donc il aurait été licencié pour faute grave. Bon, j'en sais trop rien. Je ne sais pas comment il est mort. Il a été longtemps, comment dire, sans localisation de son cercueil, de sa tombe. On a longtemps dit pendant des décennies qu'il était enterré à Saint-Raphaël, dans le sud de la France. En fait, c'est complètement faux. Il est enterré à Pantin. On a fini par retrouver sa tombe il y a très peu de temps. Il y a 4 ans, je crois. Donc, c'est très récent. Donc, la fin est très mystérieuse. Donc, en effet, il a pu disparaître avec beaucoup de secrets. D'autres choses qu'on ignore sur lui, y compris sous l'occupation.
Ah, mais quel formidable matériau littéraire. Et pour ne pas dire cinématographique.
Oui, ben, souhaitons-le.
Moi, je vois déjà les images, je vois déjà les acteurs, je vois déjà tout. Alors, on va finir avec l'art du cocktail. Ce livre, donc, qui était introuvable, qui n'avait été publié qu'en anglais en 1936 et à 1000 exemplaires seulement, qui, grâce à vous, Philippe Collin, paraît en français chez Albin Michel, avec de magnifiques illustrations inédites en noir et blanc, très art déco, signées de Delius. Une Bible, donc, que Frank Meyer, le barman légendaire du Ritz, avait concoctée. Mais pourquoi est-ce que c'est un ouvrage exceptionnel ? C'est pas juste un livre de recettes, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est un livre qui sort en 1936, en effet, à 1000 exemplaires, vous l'avez dit. Et alors, la légende raconte, c'est pas avéré, donc on va dire le mot légende, que c'est Francis Scott Fitzgerald qui aurait soufflé à l'oreille de Frank Meyer de faire un livre. Pour une raison, dit-on, c'est qu'un livre, ça s'inscrit dans l'éternité. Donc il avait dit à Frank, plutôt que de ne pas laisser ton empreinte, écris un livre de cocktail, mais plus que ça, raconte dans ce livre qui tu es. D'où ce livre un peu bizarre, où à la fois, en effet, on a des cocktails, des recettes, mais aussi des chapitres sur les courses hippiques, qui est une passion de Frank, des astuces de gentleman, des choses un peu bizarres de jet-setter, etc. Et en fait, Frank, il a conçu un livre pour une population mondaine, écrit à l'époque uniquement en anglais, pour une population anglophone cosmopolite, et qu'il a offert à une clientèle très triée sur le volet. À tel point que les 300 premiers exemplaires sont numérotés et dédicacés. Et quand vous voyez la liste des dédicaces des 300 premières personnes, vous voyez quel est le monde de Frank Meyer. Hein. C'est-à-dire que c'est un monde de la haute société mondiale. Hein. Il y a à la fois des têtes couronnées, il y a le fils de Theodore Roosevelt. Voilà, c'est un monde, et on se dit d'accord, Frank a donc tissé un univers. Lui, le petit enfant prolétaire du Tyrol, il a créé un monde incroyable. Et ce livre était donc très peu diffusé. C'est une sorte de best-seller mondain, mais à 1000 exemplaires. Et donc, on a décidé avec Nicolas de Cointet, donc chez Albin Michel, de ressortir ce livre en 2024, en français pour la première fois. Et je trouve ça assez émouvant quand je passe en librairie de voir ce livre, parce que je me dis, tiens donc, revoilà Frank Meyer en librairie. Bon, bah, ça c'est émouvant, assez touchant, je trouve.
Oui, puis alors c'est un vrai manuel du savoir-vivre, oui. Du gentleman et de la gentlewoman, j'ai envie de dire, avec donc ses cocktails, ses boissons diverses, des recettes de sandwich, la liste des vins et eaux-de-vie, des formules utiles, on y apprend plein de choses. Quel est votre cocktail préféré, Philippe Collin ?
Alors en fait, je vais vous dire, c'est le Royal Highball, pour une raison très simple. Alors c'est quoi le Royal Highball ? C'est trois ingrédients, champagne, cognac, liqueur de fraise, fraise de Plougastel. Cocktail est créé en 1921, l'année où Frank Meyer devient français. Et en fait, c'est important de le comprendre parce que ce petit juif tyrolien émigré en France va réunir dans un verre la France. Champagne, cognac, Bretagne, fraise de Plougastel. Et c'est aussi un peu iconoclaste parce qu'à l'époque, on ne mélange pas le champagne. C'est sacrilège. Mais Frank Meyer, de là où il arrive, décide de mélanger le champagne, cet alcool noble, entre guillemets, au cognac et à la liqueur de fraise. Et donc, ce petit juif qui arrive du Tyrol décide, dans un verre, de mélanger un pays qu'il a choisi et qu'il défend, qu'il a défendu durant la guerre de 14, dans un cocktail. Et c'est, d'un coup, c'est une sorte de signature, mais qui dit aussi à la fois son côté iconoclaste et son côté extrêmement élégant à l'égard de la France. Voilà.
Et je le rappelle, comme il faut boire avec modération... Oui. Bien sûr, il y a aussi plein de recettes de cocktails sans alcool.
Sans alcool, oui, tout à fait.
Merci mille fois.
C'est moi qui vous remercie. Merci
Philippe
beaucoup.
Philippe Collin, d'être venu nous parler à la fois de ce magnifique roman grâce auquel on comprend plein de choses et qui est éminemment incarné, magnifiquement incarné, Le barman du Ritz, qui a paru chez Albin Michel et accompagné de l'art du cocktail. Ce livre que Frank Meyer avait publié et qui est enfin édité grâce à vous aux éditions Albin Michel dans une version française. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci bien.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.